Les groupes de parole et enfin, l'intervention de la Française des Jeux auprès des grands gagnants, très organisée, structurée et suivie, parler, date de 1997 exactement, et a été motivée par quelques incidents justement de grands gagnants qui avaient fait parler d'eux très négativement, et c'était très mauvais pour l'image de la Française des Jeux. Donc ils ont décidé de suivre ces grands gagnants.
Et puis je rajouterais aussi un autre argument, c'est à cause d'Euromillions. À partir de, je crois que c'est 2005 Euromillions, les gains avec Euromillions se chiffrent en dizaines de millions d'euros. En France, vous avez la famille Barakès, qui est cette famille maghrébine de Franconville, qui est présente sans anonymat dans notre ouvrage 75 millions d'euros, avec 9 enfants vivant dans une cité défavorisée. Et c'est le plus grand gagnant individuel. Et puis, depuis septembre 2009, vous avez eu un groupe de joueurs dans les Bouches-du-Rhône qui a gagné 100 millions d'euros. Ils étaient 15 joueurs, 100 millions d'euros. Et donc, c'est des gains très importants avec Euromillions qui ont nécessité d'améliorer encore ce service.
Pour l'entrée en contact avec la Française des Jeux, c'est passé de la façon suivante. On faisait une intervention dans le cadre d'un salon du livre à Blois, si je me souviens bien. Alors, nous faisons cette intervention. Dans cette intervention, nous disons qu'on parle de la grande bourgeoisie et l'importance de l'éducation et de la formation de l'héritier. Lorsqu'on va hériter, on vous apprend à hériter, hein, parce que ce n'est pas évident non plus, si vous n'êtes pas fait pour cela. Et on vous fait pour cela. Donc il y a une formation pour les héritiers. Bon, alors voilà, on parle comme ça. Et puis,
Mais c'est toi qui dis, on a un
on
rêve.
a, on a, ça serait très intéressant, pensons-nous, de pouvoir aller voir ce qui se passe du côté des grands gagnants du loto, des gens qui gagnent beaucoup d'argent d'un coup, parce que là, on pourrait faire la comparaison avec nos héritiers et voir la différence qu'il y a dans l'apprivoisement de cette chose un peu magique et extraordinaire qu'est l'argent d'une certaine façon. Voilà, donc ce serait pas mal, ce serait vraiment intéressant. Et dans l'assistance, il y avait quelqu'un de la Française des Jeux qui en a parlé à sa direction et ils nous ont contactés et donc ils nous ont demandé si nous étions bien d'accord éventuellement pour faire un travail, un suivi de l'activité de la Française des Jeux, d'accompagnement des grands gagnants. Bien entendu, nous avons tout de suite accepté. D'autant que, bien entendu, c'était un peu gênant de travailler avec une des parties enfin, de la situation, une des institutions impliquées directement dans les processus. Ça peut être un peu embêtant. On avait des souvenirs de travail avec des municipalités où c'était très difficile de travailler parce que les gens qui finançaient le travail étaient aussi des gens dont on parlait. Donc, bon, il y a un peu. Il peut y avoir certains problèmes. Et là, on était un peu inquiet. La Française des Jeux nous a laissés très libres, ne nous posant qu'une seule condition, c'est que nous respections l'anonymat des gagnants, sauf pour ceux qui voulaient, bien que l'on parle d'eux directement avec leur nom, mais pour les autres, que nous ne fassions aucune entorse au principe de l'anonymat et que nous soyons très très attentifs à modifier les noms de lieux, tous les paramètres permettant d'identifier des personnes.
Il y avait quand même aussi une autre condition que nous avons acceptée. Nous l'avons acceptée de bon cœur parce qu'au fond c'était une garantie pour nous que le livre qui serait issu, puisque c'était un partenariat entre nous, la Française des Jeux et les éditions Payot, puisque nous, chaque fois qu'on fait une enquête, on s'oblige à la publier pour essayer de faire que le contribuable qui paye nos salaires puisse profiter de notre travail et que ce travail-là ne soit pas confiné à la seule communauté sociologique, scientifique, que la Française des Jeux nous donne son accord sur le texte final. Donc c'est ce qui s'est passé, la Française des Jeux, et sûrement dans la discussion on verra que ça a produit quelques effets que nous assumons parfaitement. Voilà, ça s'est passé comme ça. Oui, alors bon, j'ai esquissé un sourire, parce que comme là on est dans la tournée sur notre livre « Le président des riches », évidemment, quand on est dans une période où l'argent est revendiqué, assumé, décomplexé, la culture du secret en a pris quand même un bon coup depuis quelques mois et quelques années. Nous, on est très franco-français. Il ne faut pas nous demander de comparaison internationale. Je sais qu'on nous pose toujours la même question. Ça fait chic de faire des comparaisons internationales. Mais nous, on est très seuls à travailler sur les classes dominantes, sur ceux, alors je ne parle pas des gagnants du loto, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit des dominants, ce sont des pauvres devenus riches. Et donc, vous, les jeunes qui êtes là devant nous, il faudra que dans vos mémoires, dans vos études, dans vos choix professionnels, vous n'oubliez jamais d'investiguer sur ceux qui détiennent les rênes du pays, les rênes de l'économie, qui détiennent les pouvoirs et les richesses. Alors, cette culture du secret, elle est vitale hein, pour les gagnants du loto, parce que, comme Michel l'a dit, l'annonce en une seconde d'une richesse en millions d'euros vous donne des vertiges. C'est-à-dire que tout de suite, c'est un tremblement de terre qui aura des répliques pendant des jours, des semaines, des mois et des années, et qui se manifeste immédiatement par des troubles corporels. C'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point le social est incorporé, puisque dès qu'il y a un bouleversement annoncé dans le social, ça se manifeste par des troubles corporels. On ne dort plus, ou au contraire, on n'arrive pas de dormir. Enfin, non, on n'arrive pas de dormir, c'était juste un couple qui a dit, un couple d'entrepreneurs dont les banques les avaient emmerdés, comme ce n'était pas possible parce qu'ils n'obtenaient pas les prêts qu'ils voulaient, et tout d'un coup, avoir gagné 8 millions d'euros, ils n'ont jamais aussi bien dormi parce qu'ils s'imaginaient le lendemain apporter leur chèque à la banque. Et donc, mais très souvent, c'est des prises de poids où, au contraire, on perd du poids. Un gagnant ambulancier part à l'hôpital accompagner une malade qu'il a dans son ambulance. Quand il apprend qu'il a gagné, eh bien, il est resté à l'hôpital parce qu'il avait 27 de tension. Donc, le choc est tel qu'il faut s'en protéger. Il faut, le secret permet au fond d'amadouer le temps, de réfléchir à ce qui va se passer, d'essayer de se protéger à cette culture du secret. Alors pour certains gagnants, Michel l'a dit, ils resteront dans le secret très longtemps. L'accompagnement collectif de la Française des Jeux essaye d'aider les gagnants à rompre avec le secret, à assumer leur argent pour pouvoir en profiter pleinement. Mais respecte évidemment les décisions des uns et des autres. Qu'est-ce que tu rajouterais toi sur le secret ?
Que par exemple, il y a d'autres groupes sociaux riches qui pratiquent un secret relatif. C'est par exemple la vieille bourgeoisie. La vieille bourgeoisie qui dispose de patrimoine important. Et n'aime pas afficher la richesse possédée, n'aime pas les flambeurs, enfin les gens qui dépensent de l'argent un peu n'importe comment, et qui manifestent donc une grande richesse. Et ça nous a semblé être une des caractéristiques des vieilles familles, surtout, des héritiers, des lignées. et qui semble, pour une large part, renvoyer à l'expérience historique. C'est-à-dire que ce sont des familles qui gardent dans leur mémoire, dans la mémoire collective familiale, dans la mémoire de la famille, qui gardent les mauvais moments de la Commune de Paris, de la Révolution, pour la noblesse en particulier, de 19, mais enfin maintenant c'est bien arrangé entre noblesse et bourgeoisie, mais de la Commune de Paris, de 36, de 1968, ce sont des expériences qui ont été traumatisantes pour leurs ancêtres et qui restent dans la mémoire de la famille. Donc là, il y a, un silence sur la richesse, parce que on a quand même un château, c'est une autre manière d'être discret, c'est par exemple la courtoisie. Nous étions avec un marquis très riche dans son village, enfin un village où il y avait le château de la famille. Nous allons chez le boulanger avec lui, la boulangère lui dit « Ah, bonjour monsieur le marquis, ça va, vous êtes avec nous pour le week-end, super !» Donc il y avait une proximité, on le voyait bien par ailleurs, qui était entretenue et qui était une manière de dénier la différence extraordinaire qu'il y avait entre cette boulangère et ce marquis, bien entendu. Mais c'est une façon de ne pas choquer, ne pas heurter, qui est une prudence. Et je pense que ça a à voir aussi avec le silence des gagnants qui ne veulent pas choquer et aussi s'attirer.
Attirer
l'envie, ça.
Non, parce que d'autres ne pourraient pas l'avoir, parce que le problème, c'est la probabilité. C'est-à-dire que avec le loto, ce que vous achetez, c'est du rêve, puisque c'est une chance sur 19 millions pour le loto, il me semble, et une chance sur 76 millions pour Euromillions. Alors, une chance sur 76 millions, ça veut dire qu'il y a à chaque tirage un Français, enfin on n'est même pas 76 millions de Français, vous voyez, donc c'est-à-dire c'est des probabilités qui sont absolument infimes. Donc on peut pas, la NPE ne peut pas dire aux chômeurs pour lesquels elle ne trouve pas de travail, aller à la Française des Jeux. Hein, c'est, alors, dans votre question, il y a le rôle des jeux d'argent dans notre société. Question à laquelle nous ne répondons pas dans ce livre, parce qu'on a dit que c'était un livre qui était en partenariat avec la Française des Jeux, donc c'est un livre de sociologue dans lequel il n'y a pas la partie que nous aurions fait si nous avions été totalement indépendants de l'institution, qui aurait été la place du loto dans l'ensemble des jeux d'argent. Tandis que là, il n'y a pas cette partie-là dans notre livre. On est concentré uniquement sur le loto. Le loto, qui est un jeu de hasard avec des probabilités de gros gains extrêmement faibles, et du coup, ce que vous achetez quand vous jouez, c'est du rêve. C'est très très important de se dire ça. Le rêve de gagner, parce que il y a un décalage temporel, c'est pas les jeux de grattage. Moi d'ailleurs, je n'aurais pas pu faire une enquête sociologique sur les jeux de grattage, parce que très sincèrement, c'est quelque chose qui me choque, je n'aurais eu aucune empathie, je n'aurais été que dans un esprit critique qui m'aurait empêché de voir. Tandis que le loto, c'est le rêve, puisque à partir du jour où vous jouez et puis quand vous avez les résultats, il y a un décalage temporel qui vous permet d'épanouir votre imaginaire. Et je dirais que nous n'avons pas rencontré chez les gagnants du loto cette idéologie de dire ben, « vous voyez bien, la société n'est pas si mauvaise puisque j'ai gagné ». Bien au contraire, ils sont profondément, le plus souvent, vous verrez, choqués par la façon dont leur argent leur rapporte autant d'argent, par la façon dont ils sont traités tout d'un coup, alors par les banques, Ça, les banques, c'est extraordinaire. Dès qu'ils avaient un tout petit découvert, c'était immédiatement des agios énormes. Tandis que là, c'est invitation flatteuse. C'est inimaginable tout ce qu'on leur propose. Et puis des avantages fiscaux, des conseils dans les services de gestion de grande fortune. Et du coup, hein, Michel, ils nous ont même appris pas mal de choses qu'on a d'ailleurs utilisées après dans l'ouvrage suivant sur le président des riches, parce qu'ils nous ont dévoilé des avantages fiscaux, des manières, voilà, chercher le mot, d'optimisation fiscale, tout à fait étonnant. Et d'ailleurs, quand on parlait de la construction du gagnant par le regard des autres, eh bien le regard des banquiers compte énormément. Et tout d'un coup, ils avaient l'impression, avant ils n'étaient rien, et puis tout d'un coup, ils deviennent un portefeuille. On a l'impression qu'ils changent, le regard du banquier change, uniquement parce que leur portefeuille a grossi. Alors ça les vexe beaucoup, ils n'apprécient pas.
Oui, je voudrais ajouter sur le problème de plus général des jeux, donc de leur légitimité. Bon, c'est rentable pour l'État. Moi, je voudrais poser la question, dire que aujourd'hui, il y a quelque chose de, en tout cas, qui n'est pas, je pense, admissible. C'est le passage d'un monopole d'État sur les jeux. Sauf au casino, bon, c'est autre chose, là déjà ça pose problème, mais il y avait un monopole d'État sur les jeux, du type loto, et les autres effectivement qui sont beaucoup moins intéressants, parce que, bon, je continue sur la première idée, ce qui est en train de se passer, c'est la privatisation des jeux. Et privatisation des jeux, c'est comme pour la santé, pour les fonds de pension, etc. C'est l'instauration d'un système économique où il y a des prélèvements privés sur le travail, sur le produit du travail. Et c'est quelque chose du libéralisme, du néolibéralisme actuel qui est absolument inadmissible. Ce n'est pas normal que des gens puissent profiter effectivement du jeu des personnes qui veulent un peu rêver sur Internet et encaisser de l'argent pour eux. Ce qui se passe avec la Française des Jeux, c'est que l'État fournit du rêve à une partie de la population qui joue et qui espère gagner. Si elle ne gagne pas, elle sait que c'est le plus probable. L'argent repart à l'État. Ensuite, il est plus ou moins bien utilisé, mais quand même, cet argent a une finalité collective. Et je pense qu'il y a là une différence essentielle qui est aujourd'hui un véritable scandale moral et politique que des jeux soient sur Internet et qu'on ouvre au capital privé la possibilité d'encaisser comme ça des profits supplémentaires. Pour ce qui est des jeux de dont Monique a parlé, des jeux de grattage, etc., ce qui se passe, c'est effectivement, elle l'a dit, c'est le terme d'addiction qui résume ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que il nous a paru très nettement que le loto n'était pas un jeu addictif, un jeu auquel on va jouer jusqu'à y perdre ses dernières ressources. Vous savez que dans les casinos, par exemple, il y a des physionomistes à l'entrée des casinos qui sont chargés de repérer les joueurs qui ont demandé qu'on leur interdise l'entrée du casino parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à s'interdire de jouer. Et donc, vous avez on peut aller dans une préfecture dire « J'ai perdu tout mon salaire ce mois-ci, je ne veux pas que ça recommence, je veux être interdit de casino. » Et vous avez votre photo qui est distribuée aux physionomistes à l'entrée des casinos pour vous interdire l'entrée. Ce type d'addiction qui peut se produire avec les jeux de grattage parce que le tirage est direct, donc on achète, on regarde, perdu, on en reprend un, etc. Donc ça c'est mauvais. Par contre, ce qu'a dit Monique, le décalage entre le moment où on joue, le moment où on gagne, fait qu'on on s'offre une semaine de rêve, comme ça,
bon, qui coûte pas cher,
qui en plus est très fréquemment un jeu collectif, C'est-à-dire que beaucoup de gros gagnants sont des gagnants qui ont joué entre collègues de travail en particulier, ou en famille. Mais avec des collègues de travail, ça se fait très fréquemment. Et dernier point sur le problème que vous avez posé, qui est un vrai problème, c'est est-ce que ces jeux ne sont pas une manière de faire avaler le reste, c'est-à-dire les salaires bas, les réductions des droits sociaux, etc. Est-ce que ce n'est pas un moyen de faire avaler ce qui est inadmissible? Je pense que non, parce que ce qui ressort de la fréquentation souvent relativement intime avec les familles qui avaient gagné, c'est que lorsqu'elles étaient les familles de Caire, par exemple, sont toujours aussi syndiquées et rouges et décidées à en découdre avec leurs gains que sans gains. C'est-à-dire que la conscience de classe et la volonté de changer le monde est toujours présente. Et c'est vrai pour les autres familles, les autres personnes qui ont gagné. Le chasseur qui joue avec ses copains, chasse avec ses copains sur ses terres, il n'est pas devenu capitaliste. Il a établi un mode de chasse communautaire qui est tout à fait en homologie, en cohérence avec l'idéologie de ses parents et la sienne, collectiviser enfin les moyens de production. voilà, bon, ça intéresse.
Non, parce que j'ai bien montré, moi en tout cas dans mon exposé, qu'au fond, ils recherchaient plutôt à intégrer cet avoir dans leur être, c'est-à-dire ces millions d'euros dans leur structure de construction, dans leur habitus, et que ce que vous venez de dire, c'est plutôt une représentation journalistique, c'est plutôt une représentation de classe moyenne que d'imaginer que des gagnants modestes aient envie d'habiter Neuilly, d'habiter le 16e Nord, de s'installer dans la ville à Montmorency. D'abord, les chiffres parlent tout seuls. Là où habitent, par exemple, Carla Bruni, Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, dans cette villa Montmorency du 16e arrondissement, ben, le prix d'une maison, c'est autour de 17 millions d'euros. Donc, on est la très grande richesse du monde de la finance, du monde du CAC 40 qui est aujourd'hui au sommet de l'État, n'a rien à voir avec les gains du loto. Les gains du loto, c'est le bonus de Michel Pébrot, le président de BNP Paribas, en 2008, l'année de la crise. Hein, il a touché un bonus d'un million d'euros. Donc, ils ne peuvent pas imaginer d'aller mettre l'intégralité de leurs gains dans un hôtel particulier, dans la villa Montmorency, voilà.
Il y a des gagnants qui ne participent pas aux propositions que leur font les gens de la Française des Jeux. C'est, d'après ce qu'on a pu savoir, et en parlant avec les responsables de ces activités, ce sont surtout les gagnants déjà avec une bonne situation sociale, enfin une bonne, un certain revenu, une certaine, qui n'ont pas de problème immédiat de gestion, parce qu'ils ont déjà de quelques placements. Ils sont déjà introduits auprès de, non pas des employés de banque du guichet, mais du directeur de l'agence. Donc ça se passe bien, ils n'ont pas de difficultés de ce côté-là, et moins de difficultés que les autres pour garder le secret. Donc eux restent assez volontiers à l'écart. Il y a un autre cas, c'est pas embêtant pour nous, pour notre travail. Ce qui est plus embêtant, c'est le fait qu'il y en a d'autres qui ne participent pas parce qu'ils sont trop intimidés, même par la Française des Jeux, même par le fait de venir en groupe, parler en groupe, dans une situation qui est un peu une situation de séminaire, de DEA ou quelque chose comme ça, enfin vous voyez, hein, une situation où on parle, où on doit s'exposer en parlant de son expérience,
de son intimité.
Il y a des gens qui reculent parce qu'ils n'ont pas assez d'assurance sociale, si j'ose dire, d'assurance de soi, pour affronter des situations de parole de ce type. Ce qui est d'ailleurs, on en a parlé un peu avec la Française des Jeux, elle devrait travailler à d'autres modalités moins intimidantes, enfin, de participation.
Alors le temps d'accompagnement, ben, c'est un petit peu en fonction de différents gagnants. Disons que le service gagnant de la Française des Jeux se fixe un budget, puisque ça coûte assez cher à la Française des Jeux, cet accompagnement. Se fixe un budget en considérant que 3 ans pour les gagnants volontaires, c'est bien, mais aussi bien ça peut être moins pour certains qui se mettent à voler de leurs propres ailes, n'ont plus besoin de cet accompagnement, et puis pour d'autres ça peut être plus long. Voilà, c'est très en réalité c'est assez souple. Voilà. Et alors je voulais simplement dire, par exemple, il y avait, je ne sais pas dans quelle association d'idées j'ai noté ça, qu'il y avait un patron du CAC 40 qui avait gagné plus d'1 million d'euros puisqu'il relevait de ce service, et qui pour toucher le chèque, lorsqu'on gagne plus d'1 million d'euros, il y a une cérémonie à la Française des Jeux, enfin à la Française des Jeux, où ça peut se faire dans un bel hôtel, sur un bateau, enfin c'est chaque fois dans des conditions assez extraordinaires. Et donc comme lui, ça représentait, je crois qu'il avait dit son bonus de l'année, c'est-à-dire pas grand-chose, 1 million d'euros et un peu plus, il avait envoyé son chauffeur chercher le chèque, enfin qui n'était pas au nom du chauffeur, hein, qui était au nom du patron. Mais voilà, c'était un autre exemple pour montrer le décalage entre les gains du loto et la richesse de ceux qui se nourrissent sur la planète finance aujourd'hui. À vrai dire, on n'a pas trop travaillé là-dessus, parce que les grands gagnants sont d'emblée dans le don. C'est-à-dire que comme la grande richesse héritée porte en elle-même, dans ses germes, la nécessité de la transmission, puisque dans les familles très riches, les richesses sont telles qu'elles ne sont pas à l'échelle des dépenses d'une famille, à l'échelle d'une génération. Donc elles portent en elles les germes de la nécessité de la transmission. Et puis par ailleurs, il y a une autre raison, c'est aussi parce que quand on transmet à ses enfants, aux générations futures des mêmes familles, cela permet aux privilèges les plus insensés, les plus arbitraires, de rester pendant longtemps, le plus longtemps possible, au sein de la même classe sociale, au sein des mêmes familles, au sein de la même confrérie, au sein du même clan, au sein de la même bande, peu importe quel terme on emploie, mais au sein, en tout cas, de familles restreintes. De la même façon, le gain important implique la transmission, bien entendu, aux enfants, et ça, c'est une légitimation extrêmement importante. On a observé qu'à la deuxième génération, ben, il y a un peu un oubli de la richesse due au hasard. Comme dans les familles des héritiers, on oublie les origines qui ne sont pas toujours. Hein, Balzac disait que les langes du bébé n'étaient pas n'était jamais propre. On oublie l'origine de la fortune et on la légitime à travers la culture, les dons, les fondations, les relations sociales, etc. Et donc le gagnant, lui, est d'emblée aussi dans le don. Alors c'est plutôt le don, pas tant d'un point de vue humanitaire ou caritatif, c'est par exemple un gagnant qui fera un don très important à sa commune. On raconte dans notre livre, il offre un an de cantine scolaire pour tous les enfants de la commune. D'autres, ce seront l'ambulancier qui se retrouve à l'hôpital avec ses 27 de tension. Lui, il a offert une voiture à tous ses voisins de son quartier. Ils sont, Michel, beaucoup dans le don. Mais c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à dire de personnes qui auraient comme ça fait des dons et qui nous en auraient parlé à Médecins du Monde ou dans des associations auxquelles ou ayant fait des fondations. Nous n'avons pas d'exemple de ce type.
Par contre, ce qu'on peut dire par rapport à l'usage de l'argent gagné, c'est qu'il y a un usage assez fréquent qui est d'investir dans une entreprise, à créer son entreprise d'une façon ou d'une autre en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on aime. Alors il y a plusieurs exemples, j'en donne deux rapidement. Un gagnant qui était dans l'administration où il faisait son boulot, mais en rêvant de faire de la musique. Donc, son truc, c'est la musique, c'était ça la musique. Bon, il était un peu malheureux dans son boulot.
Parce qu'il est aux impôts, il s'en mêlait.
Et donc, étant aux impôts, il a pu mettre son argent tout à fait à l'abri. Et il s'est acheté un magasin de musique, le magasin de musique le plus important de la ville où il habitait. Il a fait une proposition d'achat. Et maintenant, il est patron de ce magasin de musique. Il fait de la musique par ailleurs. Et surtout, il a comme client des gens qui font de la musique. Donc, il vend des instruments, des partitions. Bon. Et il est vraiment heureux. Il s'est réalisé grâce à cet investissement. Et un autre cas de figure qu'on a eu, peut-être, je crois, deux fois même, ce sont des gens qui travaillaient dans le bâtiment comme salariés. Je me souviens du cas précis d'une famille où le père et les deux fils, qui étaient relativement, qui étaient de jeunes adultes, travaillaient tous les trois dans le bâtiment comme salariés. Ils gagnent une somme suffisante pour monter une opération. Ils achètent des appartements, des maisons. Ils travaillent tous les trois ensemble dans ces maisons. Ils les mettent aux normes, etc. Et ils les revendent. Et la mère de famille fait la comptabilité de cette mini-entreprise. Le père et ses deux enfants sont vraiment ravis parce que ce sont des gens qui aiment leur métier. Mais le faire pour eux et le faire sous leur responsabilité, sans avoir les contraintes de l'encadrement, etc., c'est extraordinaire et ils se réalisent dans un métier qu'ils aimaient de cette manière. Donc il y a des formes d'investissement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait de son argent? C'est un peu le sens de la question aussi. Très souvent, il y a des achats immédiats parce qu'il y a des choses dont on rêvait. Par exemple, nous avons vu des cuisines aménagées qui avaient l'air de un peu salle de commande de sous-marin ou de. C'était vraiment extraordinaire de technicité et de laboratoire. C'était le mec plus ultra de ce qu'on peut faire en cuisine.
Oui, mais c'était dans le lotissement.
C'était dans le lotissement où
les gens habitaient. Un lotissement avec des maisons mitoyennes, très modestes. ils sont restés dans leur maison pour garder leur mémoire familiale, pour garder, rester dans leur vie, mais avec une cuisine totalement...
Est-ce que je vais... Oui, avec... Non, mais c'est... ce que je voulais dire dans cet exemple, c'est qu'on se fait plaisir, on s'achète quelque chose qui est un peu, bon, peut-être un peu excessif, pas de jugement de valeur, mais peut-être que ça ne s'imposait pas. Bon, c'était vraiment une technicité étonnante. Et puis, ensuite, il y a d'autres formes de gestion, et comme Monique l'a dit, on s'oriente lorsqu'il y a des enfants vers quelque chose qui va pouvoir être transmis, et ça c'est extrêmement important parce que il ne s'agit pas de flamber, de s'acheter une Ferrari rouge, c'est pas vraiment c'est très rare, ça arrive de temps en temps, mais, c'est vraiment extrêmement rare. Après s'être fait plaisir avec une cuisine, un camping-car super, etc. Ensuite, on aménage la maison, on achète une maison pour le fils qui va se marier, et on transforme la petite richesse, parce que comme Monique a dit, c'est pas une richesse fabuleuse quand même, hein, 75 millions c'est pas mal, mais jusqu'à 10 millions, ça c'est pas extraordinaire, on ne fait pas... Des choses extraordinaires, etc. Mais ils peuvent quand même se constituer un patrimoine qui va être transmis, et ça c'est une dimension très, très importante qui les fait changer un peu de milieu social quand même, parce que dans les familles les plus modestes, on n'est pas propriétaire de son logement, et à part ça, qu'est-ce qu'il y a dans le patrimoine? C'est très peu de choses, donc il n'y a pratiquement rien à transmettre. Autrefois, il y avait la mémoire ouvrière. Bon, maintenant, c'est pas évident. Et au moins, eux vont pouvoir être à l'origine de quelque chose qui va leur survivre dans leurs enfants par l'intermédiaire de ce gain.
Ça arrive lorsque le gagnant n'a pas été bien construit. Et je ne sais pas, par exemple, si vous avez un mauvais, je ne sais pas comment dire, si vous n'avez pas été bien construit, si vous avez un surmoi qui est très bas, ou si vous ne connaissez pas de limite, déjà avant le gain, le gain va... vous faire faire des bêtises, hein, parce que vous allez vous acheter justement une Ferrari rouge et puis une Ferrari jaune. Je dis cela parce que ça se base sur un exemple précis. Donc voilà, il y a un problème aussi dans les familles. Le gain, c'est comme l'héritage. Il y a des familles qui sont solidaires, qui sont unies, hein, et donc le gain va renforcer ces liens d'union et de solidarité. Et puis vous avez des familles, au contraire, qui sont fortement désunies, avec des rivalités, des tensions, et là le gain va aggraver encore plus ces tensions. On décrit dans notre livre le cas d'une jeune femme qui gagne avec son mari des sommes importantes, et c'est cette famille qui crée cette SCI où ils se mettent tous ensemble pour racheter des maisons, les retaper et les revendre, une SCI immobilière. Eh bien, elle avait une très mauvaise relation avec sa mère. La mère s'est trouvée extrêmement jalouse de voir sa fille devenir heureuse, gagner tout cet argent. Et il y a eu un conflit terrible, et la gagnante a été obligée de rompre avec sa mère pour pouvoir vivre normalement le bonheur du gain. Mais parce que, antérieurement au gain, il y avait une mauvaise relation entre la mère et la fille. Donc au fond, le gain, c'est exactement comme l'héritage au moment de la mort des parents. Ça exacerbe les tensions s'il y avait des tensions, ou au contraire, ça resserre les liens s'il y avait de la solidarité, de l'intimité.
Je crois que parmi les personnes avec lesquelles nous avons été vraiment en contact, de façon approfondie, il n'y a qu'un exemple de crise grave liée au gain. Et qui ne concerne que les enfants. Les enfants étaient de jeunes adultes, et les parents, eux, ont bien maîtrisé les choses, mais les enfants leur ont échappé, et les enfants
plus de difficultés que les parents à intégrer le gain.
C'est le moins qu'on puisse dire, parce que les garçons, en tout cas, il y avait de nombreux enfants dans cette famille, les garçons, c'était les grosses bagnoles, et faire les andouilles avec ces grosses bagnoles, et aller dans les boîtes, etc. Enfin, il n'y avait que ça. C'est-à-dire que je pense que c'était des enfants déjà un peu déscolarisés, en difficulté, sans travail. Pardon. Donc,
c'est ça, pas bien construit, pas bien construit.
Pas intégré à la société.
Oui. Alors que les parents avaient des valeurs ouvrières, ils avaient toujours été très pauvres. Elle était algérienne et lui tunisien. Vraiment, ils en avaient bavé toute leur vie, mais ils avaient toujours été dans la fierté de leur travail ouvrier, dans vraiment un couple uni, et leurs enfants qui ont grandi dans une cité, hein, c'est ça. Et donc ça prouve que les parents, ils ont su intégrer le gain, et les enfants, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la même éducation, ils n'ont pas grandi dans les mêmes conditions, et donc on voit même au sein d'un même groupe, en fonction d'éducation profondément différente, comment le gain produit des effets tout à fait différents. Alors, dans ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. Nous attendions la remarque, c'est vous qui l'avez fait, la remarque du biais, hein, puisque nous travaillons avec la Française des Jeux, nous rencontrons les gagnants dans le cadre de cet accompagnement collectif de la Française des Jeux à travers le service gagnant, et forcément, il y a un biais qui fait que nous rencontrons des gagnants pour qui ça se passe plutôt bien, puisqu'ils sont déjà là. Voilà. Mais après, si vous voulez, je pense que notre travail permet ensuite, avec les analyses sociologiques que nous proposons, d'interpréter tous les autres cas. Hein, mais vous avez raison. Je conclue juste en disant, c'est pas des résultats statistiques que nous présentons, ce sont des résultats sociologiques. Hein, c'est des analyses sociologiques que nous présentons. Sûrement, mais nous, ça peut pas être autrement. Il doit bien y avoir de l'adaptation, mais si vous voulez, nous c'est très difficile, il faudrait suivre ces personnes de façon intime, très approfondie, tandis que là nous les avons suivis dans le service gagnant, puis nous avons fait des entretiens avec eux, puis systématiquement nous sommes allés les voir sur place dans leurs activités. C'est déjà bien, mais c'est pas suffisant pour vraiment répondre. Nous on a plutôt une impression de continuité. Je réalise de manière ample et je déploie mes ailes, alors qu'avant, j'étais toujours restreinte, j'étais toujours petite, saisie dans les raies de la nécessité, je ne sais pas comment dire. Vous voyez, le geste, on est toujours étriqué, toujours. Tandis que là, je m'épanouis, je déploie mes ailes.
La rupture par rapport au travail. C'est un élément très déterminant par rapport à ce qui va se passer après, parce que les gains, pas 1 million d'euros, parce qu'un million d'euros pour une famille, si on arrête de travailler, ça sera vite dépensé, mais pour quelques millions d'euros, on peut arrêter de travailler.
Il va partir de 5 à peu près.
Ouais. Si c'est géré correctement, ça suffit pour vivre sans travailler. Et vivre relativement confortablement. Au-delà, si c'est 20 millions, 30 millions, évidemment. Donc là, il y a des ruptures très nettes qui dépendent beaucoup de la satisfaction au travail. Par exemple, la satisfaction qui n'est pas nécessairement liée à l'aspect gratifiant du travail lui-même, etc., mais qui est liée à d'autres dimensions. Et nous avons, parmi les dockers que nous avons vus, il y en a un qui a arrêté de travailler pour un an. Et il va, il avait l'intention, et il allait le faire.
Et il l'a fait.
Il l'a fait. En ce cas. Et donc, il l'a fait. Il est retourné au port. Et pourquoi ? Parce que son métier de docker, c'est son identité. C'est très fort, c'est-à-dire que s'il n'est plus sur le port, il a 30 ans, enfin, il est jeune, s'il n'est plus sur le port, il n'est plus rien. C'est pas surtout que c'est un métier qui vous organise aussi votre vie quotidienne, parce qu'il y a des loisirs en commun, parce que il y a des structures d'aide, etc., parce qu'il y a une solidarité très forte entre les dockers. Donc ne plus être ce que l'on est, c'est ça, ne arrêter de travailler. Il faut continuer à travailler pour continuer à être ce qu'on est. Et...
Oui, tandis que l'ouvrier menuisier, par exemple, le chasseur, lui, il a su dans les 30 secondes qui ont suivi les 27 millions d'euros qu'il s'arrêterait de travailler. Donc là, vous avez raison, c'est une rupture. Mais il l'avait anticipé, c'est-à-dire qu'il avait décidé qu'un jour il gagnerait 1 million d'euros, et il avait tout à fait tout construit, et il a dit, il a suffi que j'accentue un petit peu, parce qu'au lieu d'un million, j'ai gagné 27 millions, mais tout était prêt dans ma petite tête. Alors le lien, vous savez, il y avait une autre question sur les liens avec nos autres recherches, Michel l'a dit au début, hein, puisqu'on avait travaillé sur l'argent hérité. Vous voyez bien que deux sociologues qui, pendant plus de 20 ans, travaillent sur les familles, les héritiers, les dynasties familiales fortunées, qu'elles soient issues de la noblesse ou de la grande bourgeoisie, et puis qui se disent, tiens, en fin de carrière, ça serait quand même bougrement intéressant d'avoir une situation de laboratoire où un seul paramètre change, la richesse économique, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça a donné ce livre. Et ensuite, la suite de nos... Alors ça ouvre sur quelle piste c'est de la sociologie. Moi, je trouve que c'est passionnant. C'est un bijou, ce travail. C'est un bijou. C'est un rêve d'avoir pu faire un boulot comme ça. Alors c'est un rêve. En plus, les conditions d'enquête étaient, je l'ai déjà dit, extraordinaires.
Ça dépend, hein. Quelquefois, la chasse ou la pluie, c'est...
alors ensuite, on est passé au président des riches, mais ça, c'est parce que c'est la situation aussi politique, économique de notre pays qui a changé. On aurait peut-être pu continuer à travailler sur les jeux, mais je pense pas. Je pense que c'était vraiment un petit bijou sociologique qui s'est présenté à nous. Michel a eu cette belle parole là à Blois, et puis cette proposition de la Française des Jeux, et qui dépendait d'ailleurs, je pense, d'un moment où, au niveau de la Française des Jeux, avant l'ouverture, la perte du monopole et l'ouverture, la privatisation des jeux sur Internet, on a profité d'un moment unique. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ce serait possible de refaire ce qu'on a fait.
Là, je pourrais ajouter un petit mot sur la... quand on fait de la recherche et qu'on a la chance d'être assez libre pour choisir ses sujets, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, c'est bien d'être à l'écoute et de se sentir disponible pour saisir des occasions. Là, c'était une occasion à ne pas rater. Qui a donné quelque chose de notre point de vue tout à fait intéressant, en tout cas ça nous a beaucoup intéressé de le faire, Et il y a un autre, dans notre travail, il y a aussi, eu aussi une occasion qui a été la chasse à cour. On a, travaillant sur la Grande Brugeoisie, on a vu que l'un de leurs loisirs préférés, le plus courant, était la chasse à cour. On a voulu aller voir, on a trouvé ça très intéressant parce qu'il y a un mélange social qui en lui-même est extraordinaire. La chasse à cour permet de, d'effacer les différences sociales pendant le temps de la chasse. Elle se reconstitue immédiatement après, mais bon, donc tout ça est intéressant à faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi, comme disait Monique, un petit bijou. C'est-à-dire que ça a permis de faire un travail monographique sur une pratique tout à fait particulière, mais qui est encore très courante et qui concerne beaucoup de régions en France et beaucoup de régions forestières en particulier, et beaucoup de gens à travers ça. Et donc, pour faire de la recherche, avoir en permanence, être attentif aux occasions qui peuvent se présenter, c'est une bonne attitude, une attitude qui permet d'aller tout à coup changer un peu. C'est pas notre objet principal, mais ça a permis de faire un travail tout à fait, je crois, intéressant aussi.
Oui, puis c'est aussi, quand on fait de la recherche, c'est aussi essayer d'être heureux, essayer d'avoir du bonheur, d'avoir du plaisir. On en avait marre, nous, des séminaires tristes, du CNRS, où les gens parlent pendant des heures sur toujours les mêmes sujets. Alors, on parle des rapports de domination, mais on a toujours la tête penchée sur les dominés, ce qu'il le faut, hein, c'est là où il y a les vrais problèmes, mais sans jamais s'interroger sur la cause des problèmes, sur où est le moteur, où est la locomotive. Toujours chercher que vous êtes jeune, là vous avez plein de possibilités pour votre avenir, toujours vous dire j'ai qu'une vie, je veux pas passer à côté des choses un peu pétillantes et un peu intéressantes, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein, les faux débats, il y en a assez, les fausses oppositions. Voilà, je crois que dans notre histoire de sociologue, le thème du film de Pierre Carle sur Pierre Bourdieu, je pense, nous est aussi, en tout cas je le sens proche de nous, la sociologie est un sport de combat, et la sociologie c'est aussi des enquêtes intéressantes, des moments pétillants, passionnants, où on cherche vraiment et où on essaye de ne pas être trop victime de l'institution pour laquelle vous travaillez, le CNRS ou l'ENS, tout ça, toujours avoir cette espèce de distance critique vis-à-vis des institutions et soi-même se dire « mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Qu'est-ce que j'ai envie d'enquêter ?» Après, on fait des concessions, mais c'est à mon avis assez important de toujours chercher de l'intérêt, de la passion, du bonheur. Arrêtez de toujours être triste.